nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour et bienvenue sur Canal Académie. Cette
Bonjour.
Semaine, les chroniques focus de notre magazine sont consacrées à Marcel Boiteux. Rappelons très rapidement le principe de ce quart d'heure, découvrir un académicien à travers quatre faits marquants de leur vie. Marcel Boiteux, bonjour.
Bonjour.
Alors merci d'être avec nous pendant cette semaine. Si vous le voulez bien, nous allons retracer de manière succincte votre itinéraire. Normalien, agrégé de mathématiques et diplômé de sciences politiques, et vous commencez votre carrière au CNRS en 1947, avant d'entrer chez EDF. L'ascension au sein d'Électricité de France est fulgurante puisque vous en devenez le directeur général en 1967 et cela pendant 11 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1978. La recherche tient une part importante de votre vie puisque vous présidez divers organismes tels que l'Institut Pasteur, Biosphère, ainsi que la Fondation des Hôpitaux de Paris et encore plein d'autres. Et vous êtes actuellement président d'honneur d'EDF et membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Mais remontons le cours du temps pour évoquer avec vous vos années d'étudiant. Vous êtes issu d'une famille d'universitaires assez brillante, je crois, avec des parents qui sont professeurs de sciences naturelles.
Et des grands-parents et arrière-grands-parents normaliens, donc une tradition familiale.
Avec un arrière-grand-père qui a d'ailleurs travaillé avec Pasteur.
Tout à fait.
Et donc, vous avez également des frères et sœurs brillants. Et pour vous, vous vous qualifiez...
Tous les deux normaliens également.
Ah oui, effectivement, c'est vraiment de père en fils et de mère en fille. Et donc, vous vous qualifiez, vous, de mauvais élève, toujours dans les nuages. Alors, comment vous vous situiez, vous, comme petit canard, comme vilain petit canard?
Bien, j'ai pas très bien démarré mes études, et surtout dans le secondaire, où les choses se sont aggravées, parce que bien, mon frère et ma sœur, qui étaient plus brillants que moi et qui m'encadraient, vraiment avaient les prix d'excellence, ou presque, et moi pas. De sorte que peu à peu, j'ai eu l'impression que l'école, c'était pas vraiment ma spécialité, et j'avais tendance un peu à m'évader, à penser à autre chose. Et donc, il a fallu un certain temps pour que ma cervelle s'éveille un peu. Je dois dire que ma mère, qui était professeure au lycée de jeunes filles, tous les ans négociait avec ses collègues au lycée de garçons mon passage à la classe supérieure, en se disant, il va peut-être un jour se réveiller. Bien qu'on lui ait dit que j'étais le cas typique du gamin qui ne ferait jamais d'études sérieuses, qu'il fallait mettre dans le technique. Elle a peut-être eu tort d'ailleurs, parce que si j'avais fait du technique, je serais peut-être aujourd'hui un riche concessionnaire d'une boîte d'automobile, alors que je n'ai été que président d'EDF, ce qui est très intéressant, mais beaucoup moins rémunéré.
Et donc c'est à 15 ans que vous avez un déclic en ayant des lectures un peu particulières. Vous pouvez nous expliquer?
C'est vrai que le hasard a voulu que dans la maison de mes grands-parents en Charente-Maritime, une vieille maison qui avait 2 siècles, si ce n'est plus, il y avait une bibliothèque de vieux ouvrages. Et un jour, j'ai piqué un ouvrage qui s'appelle Le Contrat Social. J'ai feuilleté et je trouvais ça passionnant. Et donc j'ai lu Le Contrat Social de bout en bout en me posant des questions que...
Ça fait quand même plusieurs tomes. Hein.
Et ensuite, le Contrat Social, c'était un des tomes. Il y avait 12 tomes et je me suis envoyé les 12 tomes de Jean-Jacques Rousseau au cours de l'été dans un petit coin tranquille qui était mon coin réservé dans le salon de mes grands-parents entre le piano et le mur. J'étais tranquille et j'ai lu tout ça. Et effectivement, au début de l'année suivante, j'ai eu de très bonnes notes en français, ce qui m'a peut-être réveillé.
Donc tout à coup, l'élève réservé qu'on disait... plus ou moins mauvais, se réveille avec les lectures de Jean-Jacques Rousseau.
Et donc, je commence par les lettres, puis en première, je commence à avoir aussi de bonnes notes en sciences. Et au paradoxe, alors que j'ai été vraiment très mauvais jusqu'à la seconde, on ira jusqu'à me prendre un concours général en français, en histoire et en mathématiques, sans succès, je dois dire, mais j'ai déjà pas mal quand même d'y arriver. Encore que, paraît-il, j'ai failli avoir un accession en français, j'avais fait trop de fautes d'orthographe. Quand on était mauvais de sixième en seconde, on ne peut pas acquérir l'orthographe tout de suite.
Donc finalement, vous avez opté pour des études scientifiques.
J'ai opté pour les sciences, oui.
Comme continuer dans la lignée de vos parents.
Exactement. Grands-parents et grands-parents, on était tous scientifiques. Donc je suis devenu scientifique comme mon frère également. Et qui était à l'école normale supérieure avant moi, je l'ai rejoint. Et j'ai commencé la rue d'Ulm en octobre 42. Et puis, arrivé l'année 43, où il est apparu que, étant de la classe dite 42, donc ayant 20 ans et quelques, il fallait que j'aille au STO. Et donc partir
service
en Allemagne,
travailler
pour les Allemands. Alors là, je me suis dit quand même, déjà, ils nous ennuient beaucoup, mais alors aller travailler pour eux, c'est quand même beaucoup. Et j'ai donc décidé de m'en aller.
Mais comment se sont passées vos années d'études pendant l'occupation ?
Ben, je n'y ai passé pendant l'occupation, je n'y ai passé que 9 mois finalement. Je dois dire que les écoles étaient plutôt favorisées par rapport aux gens qui n'avaient pas de marché noir. C'était pas bon, mais on était nourris. Et puis, on nous faisait faire la gymnastique. M. Carcopineau avait décidé que les Normaliens tous faire la gymnastique, doués ou pas. Et donc, j'ai fait de la gymnastique. Et le professeur de gymnastique a repéré que j'avais le profil du coureur. Et donc, j'ai fait de la course de fond. Il y a eu l'épreuve de l'école où j'ai dépassé les autres de 300 mètres. Puis le régional où je suis arrivé 20 ou 25e, c'était honnête, et le national. Puis depuis lors, je n'ai pas connu ce sport très ingrat.
Et donc, en 1943, donc, vous quittez la
France. En 43, je décide de quitter la vie officielle.
Vous êtes donc appelé au STO.
C'était le STO. Ça, vraiment, je voulais pas, quand même pas travailler pour l'Allemagne. Et donc, je passe sur les péripéties. Toujours est-il, finalement, je me retrouve à Bordeaux, dans ma famille, auprès de mes amis. Et je connaissais quelqu'un qui était de la résistance. Et je lui dis, écoute, est-ce que tu peux pas me faire quelque chose de moi? Il m'a dit, écoute, tu as de la chance. Dans quelques jours, il y a un convoi organisé pour l'Espagne. Tu pars pour l'Espagne. Ah bon, dis-je. Et alors, nous avons effectivement, nous étions 4 Français. On a hérité de 5 pilotes américains qui avaient été abattus sur Paris le 13 juillet et qu'on nous a chargé de convier à travers le sud-ouest d'abord, puis l'Espagne. Ça pourrait durer très longtemps parce que mon aventure a été assez pittoresque, je dois dire. Enfin, quoi qu'il en soit, donc, nous sommes trouvés en prison. Et comme nous étions avec ces pilotes américains, l'ambassade américaine est venue et a essayé de nous sortir, tous les 9, je dois dire.
Oui, vous étiez 9.
Et donc, ils ont sorti les 5 Américains et les 4 Français. Ils ont donc quitté la prison ingrate où nous étions depuis 3 jours. Et on nous a bombardés dans un wagon de première classe pour Madrid. À Madrid, il y avait une voiture de l'ambassade qui nous attendait pour nous récupérer parce que les Allemands étaient là pour voir ce qui se passait. Et on a été reçus par l'ambassadeur lui-même qui nous a offert un déjeuner plantureux dans les locaux de l'ambassade. Sympathique. Et puis après, on est venu nous chercher à Madrid et je suis arrivé donc à Oran ayant passé seulement à peine combien? J'ai passé 4 jours alors que les autres passaient 2 mois à Miranda.
Miranda?
Miranda, c'était le camp où arrivaient tous les Français évadés qu'on envoyait au Portugal et qui ensuite passaient sur Casablanca. Moi, je suis arrivé directement par là. Il y avait un avion qui partait pour Oran avec un général français. On nous a mis dedans, les 4 Français. Il se trouvait à Oran, dans une caserne. On m'a dit, vous êtes normalien, donc vous êtes officier. Alors, on m'a donné un galon. On m'a dit, vous êtes chef de détachement. Alors, je suis devenu un peu rouge. Chef de détachement, j'avais l'air très embarrassé. Alors, il y avait un monsieur avec un galon comme moi, avec un petit filet rouge, il m'a dit, vous n'inquiétez pas, mon lieutenant, j'occupe de tout. C'était un adjudant qui a pris en charge les choses.
Vous étiez très jeune.
Ben oui, en 43, j'avais 21 ans. Alors, je passe ensuite, bon, ben, il y a eu la formation au Maroc. J'ai appris à monter à cheval à cette occasion, d'où mon goût pour l'équitation. Et puis, il y a eu la campagne d'Italie.
Donc, vous avez participé à la campagne d'Italie.
Donc, la campagne d'Italie, lors d'un... Pas tout à fait d'un bout à l'autre, de février à juin.
Il y avait beaucoup de Québécois, normalement.
Ah, moi, je n'avais que les Français qui étaient autour de moi. Il y avait des troupes anglaises au nord, des Américains au sud. Peut-être y avait-il des Québécois parmi les Américains. Je n'ai pas eu l'occasion de les rencontrer. Donc, ensuite, la campagne d'Italie, dont je n'ai gardé aucune autre blessure que d'être devenu fumeur. Parce que, en tant que sous-lieutenant, j'avais 2 batteries et des hommes, et tous les matins, je recevais la ration de tabac français, la ration de tabac américaine que je distribuais à mes hommes. Puis on s'embêtait tellement à ne rien faire au soleil, sous une tente, au chaud. Puis un jour, quand même que j'essaye, je trouvais ça affreux. Puis je me suis mal pris, j'ai relevé le challenge, je suis devenu fumeur. C'est ma seule blessure.
Je suis devenu fumeur.
Ma seule blessure, qui a été corrigée après. Quand je suis rentré à EDF plus tard, parce que je suis passé de la cigarette ordinaire à la cigarette maïs, laquelle est tout le temps éteinte, et une cigarette éteinte ne nuit pas à la santé.
Vous rentrez en quelle année alors en France ?
Je suis, après la campagne d'Italie, j'ai fait la campagne de France et j'ai été blessé en décembre 1944. Blessé, enfin, officiellement, en fait, je me suis fait écraser par ma voiture. Choses qui peuvent arriver.
Oui, mais vous avez eu la chance de pouvoir être encore ici.
C'est-à-dire que je rentrais d'une mission noble pour un jeune lieutenant, mais pas très intéressante. J'étais officier de justice militaire, j'étais le plus jeune, j'étais le bisu, c'était moi qui venais à la corvée. Et en rentrant, un jour, on arrive dans la ferme, nous étions cantonnés, je descends de la voiture pour faire signe au chauffeur à droite, à gauche, pour qu'il recule sans défoncer la porte. Puis un obus qui est tombé, mais très loin, il s'est affolé, il a appuyé sur l'accélérateur, il est en marche avant, je me suis tiré comme j'ai pu. J'ai eu la cheville qui a été prise entre le pare-choc et la marche de l'entrée de la ferme. Donc la cheville est un peu broyée. Alors j'ai expédié sur Besançon, où j'ai trouvé un jeune interne de chirurgie qui a compris que quand on s'appelle boiteux, t'ennuyais de boiter, et qui m'a parfaitement bien réparé. Puis on m'a expédié sur Bordeaux, par hasard. Il y avait 3 villes possibles. Je suis tombé sur Bordeaux, qui était la ville de mes études et de mes amis. Et je me suis retrouvé donc à Bordeaux en fin décembre 1943. Je suis resté 3 mois à l'hôpital parce qu'une sale blessure difficile à réparer.
À cicatriser ?
Oui, parce que les malléoles, c'est assez fragile, tout ça. Et puis après, je suis remonté à Paris. On m'a mis au service technique de l'armée en tant que scientifique. Puis ensuite, j'ai été démobilisé en octobre. Ça a un peu influencé mes études, si on a encore un peu de temps. J'étais entré à l'école normale avec l'idée de faire la physique mathématique, des modèles mathématiques de physique, genre études du Big Bang. C'était ça qui m'intéressait. Et puis en rentrant, après un an et demi d'absence, on nous a dit, eh bien pour les militaires qui rentrent, il y a eu une agrégation qui est organisée spécialement pour eux, en mars. Et alors je me suis dit, ça vraiment... En 3 mois, je peux pas apprendre la chimie et la physique. Je me dis, oui, la chimie, c'est pas possible. Non, je suis devenu mathématicien. Et donc, je suis passé à l'agrégation de mathématiques, parce que ça, on peut se débrouiller même quand on n'a pas suivi tous les cours. Un mathématicien, il faut un crayon, une cervelle et du papier.
Oui.
Et j'ai donc passé à l'agrégation de mathématiques. Et du coup, j'ai décidé puisque j'avais fait Sciences Po en entrant à l'école un mois avant, je me suis dit, je vais faire de l'économie mathématique. C'est pour ça que je suis non économiste mathématicien. Et c'est ce qui a orienté la suite de ma carrière.
Et donc justement, juste après la guerre, comment s'est passé justement ? Est-ce que vous avez été marqué par les images que vous avez pu voir tout au long
Je dois dire honnêtement que pour ceux d'entre nous qui n'auraient pas été tués en Italie, il y en a quelques-uns, eh bien ça a été une extraordinaire sortie de scout. Le soleil, et puis en même temps, quand on a été étudiant, qu'on a bossé en taupe, et on travaille beaucoup, brusquement, on se trouve dans la nature, avec une responsabilité. J'étais sous-lieutenant, une vie tout à fait nouvelle.
Ce n'était pas forcément une mauvaise chose, en fait. Ce n'était pas des souvenirs négatifs.
Pour moi, dès lors que je n'ai pas eu d'ennui grave, pas mort, ni même grave, ni même blessé autre que le tabac, j'ai gardé un très bon souvenir à la campagne d'Italie. Je vous appelle de le dire, mais ça a été pour moi vraiment une mutation. C'est la fin de mon adolescence.
Marcel Boiteux, merci. On se retrouve demain pour évoquer la suite de votre vie, si vous le voulez bien. À très bientôt.